Bonjour, je viens de lire le livre de Delphine de Vigan, Les Loyautés, qui est paru en 2018 chez Jean-Claude Lattès. J'ai bien aimé et je souhaite vous faire partager, disons, mon plaisir. Delphine de Vigan commence à être une auteure connue en France, une romancière française. Elle est née en 1966, donc encore bien jeune. Elle est habituée à recevoir de nombreux prix littéraires. Je ne vais pas les énumérer tous, il y en a tellement d'ailleurs des prix littéraires. Souvent, ils n'ont pas toujours une grande valeur, disons. Je préfère vous donner les deux derniers titres de Delphine de Vigan. Elle est surtout connue pour « Rien ne s'oppose à la nuit », qu'elle a édité en 2011, où elle fait le portrait de sa mère, de sa famille, et à travers sa famille, son portrait à elle. C'est un livre assez dur où elle montre toutes les failles, tous les traumatismes familiaux. Un deuxième dont je veux vous parler, qui a été publié en 2015 et qui a reçu le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot. Le prix Goncourt des lycéens, moi je trouve que c'est un prix qui a plus de valeur, je dirais, que les autres, parce que ce sont les lycéens qui décident à qui ils vont donner leur prix Goncourt. Ce ne sont pas des gens du sérail, je dirais. Alors d'après une histoire vraie, c'est une sorte de thriller, je dirais, psychologique, une histoire de harcèlement, de manipulation. Et puis aussi, ce qui est encore plus intéressant, c'est un manifeste sur le réel et la fiction. Où est le réel? Où est la fiction dans un roman? La fiction ou l'autofiction? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de son dernier livre, Les Loyautés. C'est un livre sur la maltraitance, les relations parents-enfants, sur l'école et, comme son nom l'indique, les loyautés. On découvrira ce qu'elle veut dire exactement par ce mot. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement par ce mot? Et bien justement, pour nous en parler, Delphine de Vigan explore l'intime de ses personnages dans un roman choral à quatre voix. On a d'abord Théo, qui a 12 ans, 12 ans et demi je crois, qui est en cinquième. Il a des parents divorcés et il vit en garde alternée, ce qui ne lui convient pas du tout. Il y a Hélène, sa prof de SVT, qui va se rendre compte que Théo est dans une mauvaise passe. Pourquoi elle s'en rend compte très vite? Parce qu'elle-même a été maltraitée pendant son enfance par un père sadique. Il y a l'ami de Théo, Mathis, qui lui est pris entre deux feux, son amitié, sa grande amitié pour Théo. Ils sont vraiment comme les deux doigts de la main, Théo et Mathis. Et il est pris donc entre son amitié pour Théo et l'obéissance aux adultes, à ses parents. Et enfin Cécile, la maman de Mathis, justement, qui elle ne voit pas d'un bon œil la relation de son fils avec Théo. Alors l'histoire, elle commence ainsi. J'ai pensé que le gamin était maltraité. J'y ai pensé très vite. Peut-être pas les premiers jours, mais pas longtemps après la rentrée. C'était quelque chose dans sa façon de se tenir, de se soustraire au regard. Je connais ça. Je connais ça par cœur. Une manière de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas. Les coups, je les ai reçus quand j'étais gosse. Et les marques, je les ai cachées jusqu'au bout. Alors à moi, on ne me la fait pas. Je dis le gamin parce que franchement, il faut les voir, les garçons, à cet âge-là, avec leurs cheveux fins comme ceux des filles, leur voix de petits poussés et cette incertitude qui colle à leurs mouvements. Il faut les voir s'étonner, grands yeux écarquillés, ou se faire engueuler, mains nouées derrière le dos, la lèvre tremblotante. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, il n'y a aucun doute, c'est à cet âge-là que ça commence, les vraies conneries. Quelques semaines après la rentrée, j'ai demandé un entretien avec le principal au sujet de Théo. Il a fallu que j'explique plusieurs fois. Non, pas de traces ni de confidences, c'était quelque chose dans l'attitude de l'élève, une sorte de claustration, une manière particulière de fuir l'attention. Donc Hélène, la prof de SVT, remarque chez Théo une sorte de mal-être. Elle le voit à son comportement. Ça ne semble pas être un enfant battu. Il n'y a pas chez lui des signes de maltraitance, mais parce qu'elle a été elle-même victime de maltraitance, elle est sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Théo. Elle l'observe tout le temps et elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on apprend très vite autre chose sur Théo et Mathis à la page 13 du livre. C'est Théo qui parle. Enfin, il ne parle pas, c'est à la troisième personne, mais les chapitres sont intitulés, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un roman choral, alors chaque fois, on a le personnage dont il s'agit. Donc là, c'est un chapitre sur Théo. C'est une vague de chaleur qu'il ne sait pas décrire, qui brûle et embrase, à la fois une douleur et un réconfort. C'est un moment qui se compte sur les doigts d'une main et doit porter un nom qu'il ne connaît pas, un nom chimique, physiologique, qui dirait sa force et son intensité. Un nom qui rime avec combustion, ou explosion, ou déflagration. Il a 12 ans et demi. Et s'il répondait franchement à ces questions que les adultes lui posent, « Quel métier voudrais-tu exercer ? Quelles sont tes passions ? Que voudrais-tu faire dans la vie ?» S'il ne craignait pas que les derniers points d'appui qui semblent subsister autour de lui ne s'effondrent sur le champ, il répondrait sans hésiter « J'aime sentir l'alcool dans mon corps. » D'abord dans la bouche, cet instant où la gorge accueille le liquide, et puis ces quelques dixièmes de seconde où la chaleur descend dans son ventre. Il pourrait en suivre la trace avec le doigt. Il aime cette vague moite qui caresse sa nuque et se diffuse dans ses membres comme une anesthésie. Il boit au goulot et tousse à plusieurs reprises. Assis en face de lui, Mathis l'observe et rit. Théo pense au dragon dans le livre d'images que sa mère lui lisait quand il était petit. Corps gigantesque, yeux fendus au canif, gueule ouverte laissant apparaître des crocs plus pointus que ceux des chiens méchants. Il aimerait être cette bête immense, aux doigts palmés, capable de tout brûler. Il respire profondément, porte de nouveau le goulot à ses lèvres. Après quelques minutes, quelque chose explose dans son cerveau. C'est une porte qui s'ouvre d'un coup de pied, un puissant appel d'air et de poussière. Mathis lui prend la bouteille des mains pour la porter à ses lèvres. C'est chacun son tour. La vodka déborde, un filet transparent coule sur son menton. Théo proteste. S'il recrache, ça ne compte pas. Alors Mathis avale d'un coup. Les larmes lui montent aux yeux. Il tousse, met la main devant sa bouche. L'espace d'un instant, Théo se demande s'il ne va pas vomir. Mais après quelques secondes, Mathis ne peut s'empêcher de rire encore plus fort. D'un geste rapide, Théo pose sa main en bâillon pour le faire taire. Mathis s'arrête. Ils retiennent leur souffle, immobiles, guettent les bruits autour d'eux. Au loin, on entend la voix d'un professeur qu'ils ne parviennent pas à identifier. Un monologue atone dont aucun mot ne se détache. Donc, tous deux ont une sorte de planque au collège, un escalier sous une sorte de planque. Théo, en fait, il nous le dit lui-même, il veut oublier la vie qu'il a. Il est en garde alternée, une semaine chez sa mère, qui n'hésite pas à étaler devant son fils la haine qu'elle ressent vis-à-vis de son mari dont elle est séparée. Une semaine chez son père, et là, on a un homme incapable d'assumer sa paternité, un homme complètement dépressif, confronté au chômage, assommé par sa déchéance sociale. Toute la journée, il reste couché, alors qu'il avait un travail très intéressant, dans l'informatique, me semble-t-il. Chez Mathis aussi, il se passe des drames, une histoire de double personnalité chez son père, que sa mère va découvrir. Voilà, c'est donc l'histoire de Théo et avec lui Mathis, deux pré-ados qui ont encore l'air d'enfants. Pourtant, il y a en eux quelque chose qu'il faudrait entendre, une sorte de cri silencieux qui se traduit ici dans ce roman par l'attitude que ces deux gamins ont pris de boire de l'alcool, et ce, dans l'établissement scolaire. Et puis il y a le personnage de l'enseignante qui est intéressant, un rôle qu'elle assume entre l'apprentissage des connaissances indispensables et l'éducation à rattraper là où les parents ont peut-être abandonné leur rôle. Je ne crois pas que l'auteur veuille dire que l'enseignant doive se substituer à la famille et endosser un rôle éducatif, mais il ne peut ignorer dans certains cas que l'enfant est en danger. Je finirai par vous lire la première page du livre où Delphine de Vigan nous explique ce que sont ces loyautés. Les loyautés, ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho. Des fidélités silencieuses, ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Donc des oppositions continuelles sur ces loyautés. Voilà, je vous invite à découvrir ce livre, donc « Les loyautés » d'Delphine de Vigan, paru en 2018 chez Jean-Claude Lattès. Merci et à bientôt.
Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.